Vous écoutez RTL.
RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
On refait le monde à 19h19 sur RTL ce soir avec Elisabeth Lévy, la rédactrice en chef de Causeur. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir.
Avec la directrice du trimestriel Regard. Bonsoir Clémentine Autain.
Bonsoir.
Avec Nicolas Domenech, comme tous les lundis soirs. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Et avec le conseiller en communication Jean-Luc Manot. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir.
L'homme qui tire sur les totems plus vite que son ombre. Après les 35 heures, dans le viseur d'Emmanuel Macron cette fois-ci, le statut des fonctionnaires, il ne serait plus adéquat. Recadrage donc immédiat de François Hollande et de Manuel Valls, polémique assurée à gauche, mais le ministre assume, on nage en plein délire. S'il est interdit de réfléchir et de proposer, alors mieux vaut aller se coucher, dit Emmanuel Macron. Alors avant le fond, la forme, Emmanuel Macron doit-il apprendre à tenir sa langue sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Beaucoup se méfient déjà de ces soudains accès de franchise. Tout ça résulte d'un jeu de rôle savamment orchestré. Restons vigilants, ne soyons pas dupes, prévient Fatim. De la com à deux balles, Macron soldat du Hollandais pour se faire recadrer. On connaît les ruses du président, confirme Bref de Jour. Mission commandée, moi j'estime que le ministre braconne à droite, écrit encore Thierry. En même temps, quand on est sincèrement de droite comme lui, faut pas s'attendre à autre chose, soupire le major. De gauche ou de droite, seule la bonne vision compte. Et là, il y voit très clair, rétorque Eric. C'est ce qui s'appelle se tirer une balle dans le pied. Lol, on va commencer par son poste de fonctionnaire à lui, ricane canadien. Alban cite Guy Béard cette saison. Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. Enfin, un politique sincère, applaudit même Stéphanie. Muriel pense au contraire qu'il ferait mieux de se taire. 40 piges, banquier, il a jamais foutu les pieds dans une école, un garage, un supermarché, un camping. Nada, tacle-t-elle. David Kella, membre des économistes atterrés, rappelle d'ailleurs sur Marianne.net à Emmanuel Macron que le statut du fonctionnaire est une manière de garantir son indépendance. La fonction passe avant la hiérarchie. Voilà pourquoi un fonctionnaire n'est pas un salarié, explique-t-il. Mais Péchaud conclut, sorti réfléchi ou pas, il est temps de mettre les fonctionnaires en face des réalités du privé. C'est pas du populisme. Dire la vérité, c'est très bien.
On parlera des fonctionnaires dans un instant, mais d'Emmanuel Macron d'abord. Jean-Luc Manot, finalement, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, non ?
Il dit d'abord.
Vous n'énervez pas tout de suite, Clémentine.
J'adore la faussement naïve de Marco.
Voilà, non, mais
qui ne trompe personne.
Avant de parler de tout le monde, il dit tout haut ce que Valls pense tout bas et ce que François Hollande ne veut pas faire.
Oui, Clémentine, j'étais pas loin.
Et la deuxième remarque, c'est que une fois, on peut dire c'est une tentative individuelle, c'est un dérapage, et c'est clair qu'au bout d'un moment, quand on arrive, c'est une liberté prise en dehors de la solidarité gouvernementale, voulais-je dire, quand c'est trois fois, quatre fois, évidemment, il s'agit d'un système organisé, de ballon d'essai, de montrer que la majorité est large et qu'elle va jusqu'aux gens qui sont ultra, enfin sont des libéraux réels. À des gens qui sont des sociodémocrates marxistes.
Vous voulez dire qu'il est en service commandé ? C'est ça que vous voulez dire ?
Pourtant, Marie-Lise Le Branchu,
j'aurais pu le dire comme ça, ça aurait été plus rapide.
Je pense que c'est un système, ou en tout cas,
qu'il a assez de liberté pour le faire, ce qui montre que dans le système Hollande, il est possible de dire ce genre de choses sans être viré.
Jusqu'ici, écoutez, on avait les petites officines de type Terra Nova qui envoyaient des petites bombes comme ça, avant-gardiste, en fait arrière-gardiste, je ne sais pas comment on pourrait dire, pour essayer d'amener le débat très loin et de donner l'impression au gouvernement dit
un
de gauche qu'il n'allait pas si loin, que finalement il préservait. Donc c'est une manière de franchir des lignes, et je crois qu'Emmanuel Macron est le symptôme de cette gauche de droite qui non seulement n'améliore pas nos vies, mais qui aussi est capable de liquider ce que sont les idéaux, la vision historique de la gauche. Je voudrais juste rappeler, parce que c'est pas une parmi un discours global qui serait de gauche. C'est une nouvelle phrase qui va dans le sens de tout ce qu'il dit depuis qu'il a émergé. Il faut que des jeunes aient envie d'être milliardaires. Ce qui veut dire que la gauche aurait désormais comme idéal l'argent. Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre, je me battrais. Sous-entendu, les chômeurs sont des assistés, ils ont qu'à se bouger. Le travail du dimanche, c'est plus de liberté. Ce n'est pas une conception de gauche, de la liberté. Être de gauche, c'est parler de la réalité. Le problème de M. Macron, c'est que être de gauche pour lui signifie être de droite, parler du réel pour rester dans le réel. C'est précisément les lignes qu'essaye de faire franchir Macron ce qui reste
de la gauche. Mais peut-être faut-il les faire bouger, ces lignes, non ?
On ne doit pas parler. Non, mais je croyais qu'on ne parlait pas du faux. Moi, je voudrais quand même répondre à Clémentine. C'est un discours religieux. C'est-à-dire, avant même, peu importe ce que j'en pense pour le moment, avant même de discuter réalité, si vous voulez, c'est on pousse des hurlements, c'est-à-dire c'est vraiment il a touché au dogme. Oui, alors et vous venez de le dire,
il a touché aux fondamentaux
et la gauche ne sait plus débattre les fondamentaux des idéaux. Donc le fait que ces fondamentaux des idéaux, ces idéaux des fondamentaux ne convainquent plus personne, si vous voulez, et que au moins
personne, il faut pas exagérer.
Non mais d'accord. En tous les cas, que au moins vous devriez au moins être content qu'il puisse y avoir des débats. Or la gauche dans ce pays refuse.
Il faut qu'il y ait du débat, Elisabeth Lévy, accepter l'idée qu'il faut qu'il y ait aussi une gauche.
Pour qu'il y ait du débat, il faut que je puisse finir.
Qu'il ne soit pas
déjà. Pour commencer, je vous ai laissé finir la voix.
Allez-y, Elisabeth, si vous voulez.
Je trouve que vous avez une vision, mais complètement magique des choses. C'est-à-dire, oh, il a prononcé les mots qui fâchent. C'est affreux. Et alors, comme une bande de piranhas affamés, il se jette. Macron le fait. Il sait très bien que ça va faire tout ça. Ça marche d'ailleurs. Je veux dire, toutes les pleureuses viennent nous faire le coup des idéaux de la gauche. Bien sûr, vous êtes extraordinaire quand vous dites, vous citez sa phrase sur les jeunes qui devraient vouloir gagner de l'argent. Et vous nous
être milliardaire, c'est pas gagner de l'argent.
Oui, vouloir être milliardaire. Et vous êtes en train de nous faire croire que la gauche. Ah bon.
Ce ne sont pas des rêves.
Les gens de gauche. Je n'aime pas gagner de l'argent. Bah alors ça, excusez-moi, je ne sais pas dans quel monde vous vivez.
Je vis dans un monde, ce monde-là précisément, où en effet la promesse est de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et je dis qu'un projet de gauche, ça ne veut pas dire une pensée magique, ça veut dire juste une cohérence politique.
D'accord, alors depuis Mitterrand, il n'y a plus de gens de gauche dans ce pays. Hein.
Je trouve qu'il y en a en effet plus suffisamment. Et si vous aimez la démocratie, vous qui êtes franchement de droite, vous devriez apprécier alors, qu'il y ait en face une pensée cohérente.
Je n'aime pas les dogmes. J'aime qu'on puisse discuter.
Et ce n'est pas un dogme, c'est une réalité.
Si les gens
politique.
Du PS étaient intelligents, je veux dire, il dirait, écoutez, nous, on n'est pas d'accord, mais au moins, ça mérite d'être discuté
Nicolas
aujourd'hui.
Nicolas Domenech, qu'est-ce que vous pensez que finalement, faire bouger les lignes à gauche, ça peut être utile en vue de 2017 hein.
Non, mais bien sûr que ça peut être utile. Bien sûr que le débat est nécessaire, voire sanitaire, y compris à droite, d'ailleurs. Je pense que ça serait pas mal qu'effectivement, il y ait là aussi que des confrontations. La question est de savoir si, au fond, il le fait toujours ou pas, sauter des tabous comme il le conviendrait. Parce qu'on peut prendre le fond du débat sur les fonctionnaires, je veux dire, peut-être qu'il y a une autre façon d'attaquer le débat sur les fonctionnaires. De même, il pourrait soulever d'autres débats, notre camarade ministre de l'économie, hein, sur au fond, la grande finance, sur les banques, etc. Non, jamais, il ne va dans ce sens-là. C'est toujours dans le même sens. Et sur les fonctionnaires, je veux dire, c'est quand même au moment où on leur demande le plus d'efforts, à ces fonctionnaires, au moment où, au fond, on leur charge de responsabilités, que ce soit les policiers, les profs, les infirmières, etc., qu'on leur dit, non, et en plus de tout ce qu'on vous demande, et notamment de ne pas augmenter vos salaires depuis 5 ans, on va vous demander de renoncer à ce qui fait quand même une spécificité de ce métier, et qui fait qu'on a la fonction publique la moins corrompue, je veux dire, de tous les pays développés. C'est quand même pas rien, ça, je veux dire, c'est un avantage. Donc, au fond, discutons du fond, d'accord. Et je terminerai quand même par un dernier truc, c'est un off qui a été craqué. Oui. Et moi, je dis bravo à une maire de Challenge, parce que ça, c'est une respiration du journaliste et c'est salutaire.
On dit un mot donc des fonctionnaires, même si on en a déjà débattu sur l'antenne d'RTL beaucoup depuis ce matin, dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
Et on reprend notre débat donc autour d'Emmanuel Macron ce soir sur RTL à 19h31 avec Elisabeth Lévy, Clémentine Autain, Jean-Luc Manot et Nicolas Domenech. On dit un mot des fonctionnaires, un débat récurrent dans Refait le monde, donc on ne va pas s'apesantir, même si on ne peut pas évidemment parler d'Emmanuel Macron sans quand même évoquer le fond. Jean-Luc Manot, revoir ce statut, notamment par exemple, pas forcément l'emploi à vie, mais ces jours de carence que les fonctionnaires sur lesquels ils ne sont pas pénalisés, pas, contrairement à d'autres.
Pour énerver Clémentine, et le salaire au mérite aussi, vous pouvez dire. C'est juste pour Clémentine.
Non mais Jean-Luc, écoutez, dans un pays qui est dans les difficultés comme le nôtre, qui a les performances générales d'une autre, l'idée qu'on peut vivre avec la fonction publique la plus développée de toute l'Europe est sans doute quelque chose qui doit nous interroger, au moins nous faire réfléchir. Un certain nombre de règles de fonctionnement qui tiennent du statut ou qui tiennent pas du statut doivent être discutées. Et le principe, malgré tout, d'égalité entre le privé et le public est quand même un principe qui est aussi républicain que la volonté de préserver l'indépendance des fonctionnaires. Et je continue à penser, moi, mais on n'est évidemment pas obligé, je pense qu'on ne va pas l'être, d'être d'accord avec moi, c'est que la plus grande injustice, la plus grande difficulté qui existe pour un salarié, c'est de ne pas avoir de travail. Et que la garantie d'emploi à vie est la meilleure des sécurités qui puisse exister, le meilleur avantage qu'on puisse donner à un salarié.
Et donc, je ne comprends pas. Donc, il faut le donner à tout le monde.
Non, je ne dis pas qu'il faut le donner à tout le monde.
Comme ce n'est pas possible, mais il faut revoir.
Moi, je dis ça. Le statut dépend de ça.
Clémentine.
Oui, moi je pense ça. Pourquoi ce débat, il arrive maintenant? Il arrive maintenant parce qu'il y a 10%, en gros, 10% de chômeurs parmi, même plus, mais... dans les sociétés occidentales, avec ce modèle de développement, on est autour de 10% de personnes qui sont sans emploi. Ça crée une pression avec le développement de la précarité dans le secteur privé. Et donc, c'est au nom de cela qu'il y a ce dont parlait Nicolas Domenac, c'est-à-dire le gel du point d'indice, c'est-à-dire le fait que les fonctionnaires ne voient pas leur salaire augmenter. Et maintenant, du chômage, on pèse sur les salariés du privé et on en arrive à contester le statut des fonctionnaires pour tirer tout le monde vers le bas. Parce que c'est ça la réalité. Ça va créer quels emplois? Ça va régler quel type de problème? Absolument aucun. Ça va insécuriser une partie du salariat. Ça va mettre en péril ce qui fait partie du modèle social français et qui est positif. Je ne vois absolument pas en quoi ouvrir ce débat est salvateur pour quoi que ce soit. Parlons plutôt des délocalisations qui fragilisent nos emplois, parlons plutôt de l'évasion fiscale, parlons plutôt de la façon dont l'austérité pèse sur la récession économique et les inégalités sociales. Tout cela, ce sont de vrais débats, mais celui-là est celui qui arrive par la logique néolibérale qui va fragiliser tous les corps sociaux dans notre pays.
Alors, moi, je pense qu'il y a une vraie difficulté. D'abord, c'est de redéfinir, en fait, le périmètre de la fonction publique. Il y a des tas de gens qui sont fonctionnaires dont la tâche, la mission ne le justifie pas. Je veux dire, quand vous faites la cuisine pour des enfants, il n'y a pas spécialement de raison que vous soyez fonctionnaire. Or, je suis d'accord qu'il y a cette idée, si vous voulez, dans le statut à vie, il y a l'idée libérer en quelque sorte le fonctionnaire de sa hiérarchie. Le problème, si vous voulez, pourquoi est-ce que quand on veut traiter quelqu'un, quand on veut dire il travaille pas ou on le traite de fonctionnaire, eh bien parce que évidemment l'emploi à vie a aussi des inconvénients. Il y a celui de l'inégalité qu'a cité Jean-Luc. Mais je suis désolée, il y a aussi le fait qu'il y a des fonctionnaires qui font pas bien leur travail. Il y a des profs qui n'enseignent pas bien, non seulement il y a l'emploi à vie, d'accord, c'est-à-dire il y a très peu de sens.
Alors allez-y, le vôtre, allez-y.
Parce que ça fait des mois qu'on entend ça. On ne réformera pas la fonction publique sans les fonctionnaires. On ne réformera pas la fonction publique en expliquant que ce sont des feignants, des fourriens, des gens trop payés, des gens qui sont en vacances, etc.
J'ai dit simplement qu'il n'y avait pas de sanctions.
Insupportable, je veux dire, parce que c'est faux. Parce qu'il y a des professeurs, beaucoup, qui font leur boulot. Parce qu'il y a des policiers, mais parce que c'est...
Oui, moi je pense que ça devrait être réservé à la fonction régalienne.
Mais parce qu'on leur demande énormément, qu'on a intérêt à leur demander énormément et que c'est justifié de leur demander énormément, mais qu'il faut arrêter de
les faire passer pour des nuls. Et les rentiers qui foutent rien, on leur demande quoi?
Non, mais ce qui est extraordinaire. Mais
Nicolas, juste pour reprendre une.
Pour reprendre un élément
d'Elisabeth Lévy
sur.
Est-ce qu'il y a des fonctionnaires qui ont un statut qu'ils ne devraient pas avoir?
Mais bien sûr qu'il faut.
Mais non, mais le problème.
Il faudrait trier dans les fonctionnaires.
Mais pourquoi ne pas prendre les hauts fonctionnaires? Il y a effectivement des choses qui sont insupportables dans le fait qu'il y en a qui passent du privé au public avec des salaires faramineux. Et là, il faut interpréter, interroger, interpeller et se poser des questions, bien sûr.
On a un débat. Le débat. Il peut pas être, enfin, je sais pas, excusez-moi, aussi caricatural. Elisabeth n'a pas dit que les enseignants étaient des feignants, que personne travaillait.
C'est pas l'ambiance.
Le débat, c'est aussi d'écouter la pensée de l'autre.
C'est pas seulement, on est.
Mais c'est pas une pensée, là.
Ah bah non, je suis bête, excusez-moi. Alors, je suis pas à votre niveau, j'en suis nabre.
C'est peut-être le climat, mais moi,
c'est des slogans.
C'est peut-être le climat, mais ici, on n'est pas sur la chaîne météo. Donc, un truc, simplement. Est-ce qu'il est possible de dire qu'il y a dans l'organisation de la fonction publique française bien des problèmes qui existent, que l'idée de sanction est rarissime, qu'un salarié du privé est plus précaire, y compris dans son rapport à la hiérarchie.
Il ne gagne pas plus aujourd'hui.
Ça ne veut pas dire que les fonctionnaires, l'idée que les fonctionnaires sont des feignants, qu'ils ne foutent rien, est une idée absurde. Maintenant, système permet d'en garder un certain nombre qui sont défaillants, c'est
il
une évidence.
Zéro méritocratie.
Et c'est pas bien, ni pour le pays, ni pour les fonctionnaires. Ça existe, climat ou pas.
Et je voudrais juste ajouter un truc, c'est qu'il y avait un espèce de deal qui était, vous avez l'emploi à vie et des salaires plus bas. Je suis allée cet après-midi regarder les chiffres. Alors, il y a 2 ans, en tous les cas, le salaire moyen, avec toutes les différences que ça suppose, était plus élevé dans la fonction publique d'État.
Mais par rapport, mais
par rapport au salaire moyen du privé. J'ai été chercher les chiffres de l'INSEE.
Allez, Nicolas, je laisse conclure là-dessus. S'il vous plaît, rapidement, on est très
il se trouve que ça fait plus de 20 ans que je fais du journalisme politique, et notamment que je suis les meetings de la droite. Et j'entends, mais toujours, ces propos-là. Alors, vous pouvez me dire que c'est pas une pensée, que c'est une pensée, etc. N'empêche que moi, je dis que ce sont des slogans, que c'est sous forme de slogans, et que ça contribue à l'immobilisme français, et que ça ne permet pas de réformer la fonction publique.
Quand je vous dis qu'il n'y a aucune méritocratie, c'est un slogan.
D'accord.
Mais ce qui serait quand même intéressant,
on va s'arrêter là,
c'est aussi de se poser la question de la sécurisation des statuts pour ceux qui ne sont pas dans la fonction publique.
On va reprendre le débat dans un instant, plus sur les fonctionnaires, mais sur l'OM et ses débordements.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchier.
19h41, on refait le monde ce soir avec Nicolas Domenac, Clémentine Autain, Jean-Luc Manot, Elisabeth Lévy. Le football a montré ce qu'il avait de pire après les incidents lors du match OM-OL hier soir au Vélodrome, où les supporters se sont pris particulièrement à Mathieu Valbuena. Le président de la Ligue, Frédéric Thirier, évoque l'idée de rajouter quelques zéros de plus aux amendes. Alors, doit-on s'inquiéter à quelques mois de l'euro sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Apparemment, il est plus simple de rentrer dans un stade avec une bouteille en verre qu'avec un cerveau, s'étonne Karim. Après, chacun sa solution. Guim soupire, les médias en font des caisses, on peut remettre les grands filets et basta. Dans tous les stades de foot, on te fait enlever le bouchon des bouteilles en plastique au Vélodrome. Tu rentres avec des bouteilles en verre, hallucine le comble des supporters du FC Nantes. Non, c'est pire que ça. À Marseille, c'est les groupes de supporters qui vendent l'alcool dans le stade. Véridique, répond Raoul. Il faut revoir ce rapport entre club et groupe de supporters. Ces groupes protègent des voyous à cette Michel, oui, un petit moins 3 points, ça leur ferait pas de mal, assure Siki. N'importe quoi, les clubs ne sont pas responsables. La justice doit envoyer les quelques hooligans en prison, rétorque Philippe. Une centaine d'individus tout au plus dans un stade de 60 000 places. Arrêtez de délirer, qu'on utilise la vidéo de surveillance tout simplement pour expulser les voyous, confirme Stéphane pour finir.
Et pour débattre sur ce sujet, avec nous Christian Olivier, le chef du service des sports d'RTL. Bonsoir,
bonsoir
Christian.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Ben, welcome. Alors... pourri ce football.
Non, non, mais l'histoire des cerveaux, c'est un peu facile, hein, car dans chaque corporation, il y a effectivement des cerveaux qui sont un peu abîmés. Mais, voilà, c'est une minorité, il faut le préciser. Tout ce qui était hier soir au stade Vélodrome, je veux dire, c'est une minorité. Alors après, il y a des mesures draconiennes à prendre, parce qu'effectivement, ça impacte l'image d'un club, ça impacte l'image du football français, et ça impacte effectivement l'organisation de l'Euro 2016. Mais c'est une frange.
Convaincu, une frange Nicolas Domenac, ou alors vous pensez que le football est beaucoup plus gangréné que veut bien nous le dire Christian Olivier?
Non, je crois qu'il y a eu des trucs inquiétants là. La première chose d'abord, moi j'adore le stade du Vélodrome, j'y vais souvent, au PSG d'ailleurs aussi, parce que j'adore la passion. Mais là, c'est vrai que c'était insupportable quoi, ce qu'on a vu. C'était, selon la qualité du jeu. Mais là, ce qui m'a inquiété, c'est que c'est le rôle des dirigeants. J'ai trouvé que le dirigeant de l'OM, le patron de l'OM et celui de l'Olympique de Lyonnais ont contribué, au fond, à mettre le feu. Ils ont été totalement inconséquents, l'un en accusant l'arbitre, l'autre en traitant son collègue.
C'est Vincent Labrune qui a...
L'exemple doit être effectivement donné d'en haut. Ce qu'on peut regretter, c'est l'intervention de Las à la mi-temps, qui lui voyait déjà son équipe gagner les 3 points. Donc c'était une certaine forme de mise en pression du corps arbitral, le temps que celui-ci se dise comment on va gérer la suite des événements. Et puis Labrune, effectivement, en fin de match, qui estimait qu'il y avait eu des faits de jeu, pour reprendre exactement ses propres
c'était
paroles.
C'était la question qui lui était posée par le journaliste de Canal+.
Il n'est pas obligé de dire que des faits de jeu, donc des erreurs d'arbitrage, ont provoqué des incidents dans les tribunes.
Jean-Luc Manot, est-ce que vous pensez qu'il y a des...
On va pas épiloguer sur... Pardon.
Non, allez-y, mais est-ce qu'il faut des sanctions lourdes, très lourdes ? Est-ce que vous êtes inquiet pour l'euro ?
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas épiloguer sur ce qui s'est passé. Chacun voit que c'est lamentable de l'effigie d'un joueur pendu et qui reste tout le match sans que personne ne bouge pour aller l'enlever. C'est, voilà. Ce qui m'a paru insensé, c'est dans la réaction après, l'idée qu'on dit on a une solution, on va remettre des filets. On va remettre des filets de protection, c'est-à-dire qu'on va faire jouer les gens comme aux zoos, sauf que les animaux sauvages, c'est la tribune. Mais enfin, c'est insensé de dire qu'on va faire des matchs avec des filets de protection.
Il faut déjà trouver des solutions immédiates. D'accord,
Vous vous rendez compte à quel point on est arrivé.
Interdire les matchs, c'est
filets. Non, mais ces filets ont existé dans les années
80. Il ne faut pas sanctionner les joueurs qui sont pour rien. Il faut calmer les dirigeants. Et puis, il y a un seul mot d'ordre à l'heure où on est. Regardez tous la Coupe du Monde de rugby. Vous savez, ce sport, on se bigne. On se bigne pendant 1h20 et à la fin, les gens se saluent et se portent la collade avec des gens polis et civilisés.
Et sur le rugby, qui est quand même un sport.
Pourquoi il n'y a jamais de débordement?
Entre le rugby et le football, c'est pas le même sport, c'est pas le même monde, ce sont pas les mêmes gens qui y jouent, c'est pas forcément la même sociologie, et comparaison n'est pas raison. Sur les filets, il faut bien de toute façon trouver. Ben oui, mais il faut bien trouver de toute façon des solutions immédiates. Mais
ce qu'on dit, on dit que le rugby, c'est un sport de voyous.
voyous joués par des gentlemen.
Attendez, je vais donner l'exemple d'un match de championnat il y a deux semaines où il y a eu des insultes racistes dans le sud-ouest.
Oui, ça arrive, on en a peu parlé, ça arrive. On n'entend plus, quand on n'est pas amateur de foot soi-même, on n'entend parler que du foot. On n'entend parler du foot que pour nous parler de ce genre de truc. Excusez-moi, et en plus, je voudrais.
Bah non, on donne des résultats quand même aussi
de temps en temps. Et je voudrais vous poser une question, parce que moi j'ai été frappée en plus par le. Parce qu'il y a ce qui semble avoir déclenché ces incidents, c'est-à-dire l'idée qu'un joueur qui avait joué à l'OM, il y a une espèce de logique mafieuse en quelque sorte, il est traître. C'est un traître, c'est un salaud. Et j'ai l'impression qu'à Marseille, en plus, c'est plus. C'est-à-dire qu'à Marseille, c'est plus grave qu'ailleurs.
Alors, Christian, Nicolas. Non, d'abord, non, mais... à Marseille, ils ont le sang chaud, effectivement. Ce qui a provoqué les incidents, ouais. ce n'est
ils
pas.
Ils sont mal élevés,
ce n'est
pas
tant la présence de Valbuena. Si Valbuena, pour ne pas le citer, avait été sifflé pendant tout le match dans une ambiance hostile avec les sifflets, ça fait partie du foot, ça fait partie de l'ambiance. On peut le regretter ou pas, mais ça, c'est pas très, très grave. Ce qui est grave, c'est une décision de l'arbitre justifiée de surcroît qui provoque la réaction d'une frange de spectateurs. Il n'y a pas 60 000 abrutis au stade Vélodrome. C'est une frange. Et effectivement, il faut mais il faut trouver des solutions. Mais c'est une petite minorité.
On a quand même l'impression que le foot, ça devient une école de la bêtise et pas une école du fair play.
Mais ce n'est qu'une impression. Sport, mais ce n'est qu'une impression.
Excusez-moi, c'est bien limité. Quand même.
Moi, je partage l'idée qu'il faut trouver des solutions. Alors, les filets, je ne suis pas fan. L'idée de fliquer davantage à l'entrée, je ne suis pas fan non plus. Mais peut-être qu'à court terme, c'est une idée. Puis faire progresser la conscience contre ce petit nombre, ça c'est sûr. Mais je voudrais faire remarquer que le Valbuena en question, il a été pendant 8 ans, c'est ça, à l'Olympique. De Marseille, et il est parti donc à l'Olympique Lyonnais, et au passage il a touché 6 millions.
Et alors
je me demande si ce mercato aussi des joueurs qui quittent une équipe pour une autre pour des histoires quand même de fric.
Les gens de gauche en fait,
ce ne sont pas les sommes d'argent qui peuvent être parfois effectivement démesurées qui ont provoqué la réaction du public. Là, il y a un côté identitaire à Marseille. On joue à Marseille, on défend Marseille et on ne doit pas aller ailleurs.
Mais sauf que là, il est parti
parce que sous une autre bannière médiatique, vous dire
et
voilà.
Cet argent a bénéficié.
Allez, Nicolas.
C'est extraordinaire. On n'est pas en train de parler de l'armée d'un pays.
Pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Cet argent a bénéficié à l'OM. En plus, ça a permis d'acheter de nouveaux joueurs. Ils ont une excellente équipe grâce à Valbuena. C'est ça le paradoxe. Mais je rappellerai que le dernier enjeu de tout ça, c'est quand même la candidature de la France pour les Jeux Olympiques de 2024. Et que ça, c'est désastreux.
Allez, merci Christian Olivier. À demain sur RTL. Dans un instant, on va dire un mot, hélas, beaucoup de pubs ce soir, d'Alexis Tsipras.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde, Marc-Olivier Fauché.
On refait le monde à 19h51 avec Nicolas Deménac, Jean-Luc Manot, Clémentine Autain, Elisabeth Lévy, insubmersible Tsipras, le leader de Syriza, donc remporté les élections législatives hier en Grèce. Alors, finalement, très fort ce Tsipras, il a réussi son pari, Jean-Luc Manot.
Oui, il a réussi le pari, c'est tactiquement parfaitement bien joué et avec un atout, c'est d'utiliser toujours le scrutin populaire et ça c'est quand même très fort parce que c'est indiscutable. Donc oui, les difficultés vont commencer. On peut évidemment regarder qu'il y a une social-démocratisation relative. Il y en a davantage des sociaux-démocrates ailleurs, mais relative de ce qui se passe, de ce qui se passe en Grèce. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé hier, c'est la déclaration du président de la République française félicitant Tsipras en direct du Maroc et expliquant que quand même les gens qui étaient à son extrême gauche, c'était pas bien du tout et que ça marchait pas.
Bah, il a quand même réussi à dégager les frondeurs.
Plutôt les frondeurs de Hollande. Quand même.
Je dois dire que je me suis beaucoup amusé en voyant François Hollande essayer de passer pour une sorte de Tsipras français et je me disais quand même qu'il était plus proche d'un Papandréou.
Mais d'ailleurs, il y a un enjeu d'interprétation autour de ces élections, le fait que c'est incontestable, il a gagné, ce n'est pas le grand bond en arrière qu'aurait pu constituer la victoire de la droite face à la difficulté devant laquelle a été mise Syriza, qui a quand même négocié le pistolet sur la tempe, qui a fait le choix d'accepter le mémorandum, mais de se battre et de continuer à se battre, ce qui n'est pas du tout la position de François Hollande, qui ne s'est pas battu, qui ne vient pas de la même famille politique. Donc, dans l'enjeu d'interprétation, je crois qu'il est important de rappeler que Syriza est un gouvernement qui conteste le mémorandum, qui conteste les normes néolibérales et qui tente de mener une politique d'alternative. alternative. C'est un pays, enfin, je veux dire, c'est un gouvernement qui est seul avec la Grèce qui ne pèse que 2% du produit intérieur brut. C'est très, très compliqué et ça met les autres pays européens devant leurs responsabilités parce que je ne crois pas qu'un pays puisse s'en ressortir totalement seul et que François Hollande, qu'on le veuille ou non, n'a pas aidé Alexis Tsipras à gagner face à Angela Merkel.
Alors, deux petites choses très rapidement, puisqu'on a peu de temps. D'abord, je voudrais rappeler que les sondeurs se sont encore mis la fourchette dans l'œil et qu'il faut s'en souvenir, parce que chaque élection, quand même, comporte des surprises. Et donc, ils avaient prévu que Tsipras allait prendre une claque. Bon, donc, non, mais c'est important pour ce qu'on vit actuellement, puisqu'on rythme la vie politique française avec les sondages, donc, qui racontent n'importe quoi, notamment sur les primaires, puisque, bon, on ne va pas revenir là-dessus.
Je croyais que nos sondeurs à nous étaient tellement forts.
Ils sont bons, mais ils peuvent aussi faire des erreurs. Deux, effectivement, les frondeurs, malgré tout, ont été dégagés, mais il sera intéressant de suivre, après cette élection-là, les élections irlandaises, les élections espagnoles, les élections portugaises, parce que le front, disons, d'opposition à une certaine austérité sera manifeste. Maintenant, le dernier point, c'est quand même que cette opposition à l'austérité n'est pas une sortie de l'euro. Et donc, tous ceux qui disent qu'il faut sortir de l'euro, eh bien, le parti de la sortie de l'euro, eh bien, il fait 5%.
Eh bien, évidemment, non, mais
c'est quand même intéressant de voir ça.
C'est dans vraiment, ces conditions, c'est une des choses qui me frappe, c'est qu'effectivement, et quoi que j'en pense d'ailleurs, je ne sais pas ce que je pense en fait moi, mais ce que je vois, c'est que les Grecs, à deux reprises, ont dit qu'ils ne voulaient pas, enfin plusieurs reprises, ont dit qu'ils ne voulaient pas sortir de l'euro. Et alors je me disais un peu en blaguant, évidemment, Tsipras, c'est le rêve de tout gouvernant, c'est-à-dire être élu triomphalement après avoir trahi ses promesses. En réalité, je crois que les Grecs lui savent gré d'avoir essayé, et moi je suis quand même admirative d'un truc, parce que dans le fond, peut-être que Tsipras, en 2015, c'est un peu Mitterrand en 83. Sauf que Mitterrand n'est pas repassé devant les électeurs. Mitterrand a changé de politique par rapport à celle... Non mais on en pense qu'on en veut. N'empêche que Mitterrand a été élu en 81 sur un programme. En 83, il tourne le dos à ce programme. Il repasse pas devant les électeurs. Le type a quand même... Oui, mais enfin, c'est une majorité qui s'assoit sur le vote par lequel elle a été élue. Oui, mais c'était une majorité qui n'avait pas été élue.
Il les avait tenus pendant un an et demi.
C'est pas tout à fait la même situation. La Grèce d'aujourd'hui et la France de 81, c'est pas tout à fait la même.
Mais quand je disais lui, ce n'est pas référence à Tsipras.
Non, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est juste que Tsipras a dû effectivement en rabattre sur ce qu'il avait annoncé avant le référendum. Il a fait quelque chose de très digne, c'est de retourner devant les électeurs. Franchement, nos gouvernants pourraient de temps en temps s'inspirer de ça.
Mais Tsipras, avec finalement sa façon de s'accommoder de ses promesses, il fait toujours partie de votre idéal.
Il fait partie de ma famille politique. Il a été devant une difficulté considérable parce que Syriza a été élu sur on ne sort pas de l'euro et on n'applique pas le mémorandum. Les deux,
c'est-à-dire un oxymore.
Je peux continuer. Les deux, exactement, se sont trouvés incompatibles. Il a fait ce choix-là parce qu'il n'avait pas préparé, il n'avait pas anticipé une sortie de l'euro. Non, mais c'est important de le dire. Ce n'était pas sa voie et il pense qu'il ne s'en serait pas, que le pays ne s'en serait pas sorti.
C'est très réconfortant parce que ça veut dire que Clémentine, si elle arrive au pouvoir, finira par s'accommoder d'une partie
du réel.
C'est une assez bonne nouvelle.
Pourquoi Clémentine va arriver au pouvoir ?
Je dis que si elle arrive au pouvoir, elle s'accommoderait du réel.
Et je pourrais avoir un travail à régime semi-sévère ?
La France, arriver au pouvoir en France, c'est pas la même chose, encore une fois, que d'arriver au pouvoir en Grèce, dans la situation dans laquelle se trouvait le pays. Et je le dis très sincèrement, je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place d'Alexis Tsipras. C'est très difficile, cette situation grecque, donc je ne sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il s'est battu, qu'il continue à se battre, en tout cas, c'est ce qu'il va dire, et que la situation dans laquelle il se trouve va être très difficile.
Enfin, il a accepté
donc je ne dis pas, je ne, bien sûr, donc je suis inquiète, je suis préoccupée, mais j'estime qu'il est de ma famille, pas de celle de François Hollande, et que j'espère.
Ah ben il est de la famille de tout le monde alors maintenant, même de la mienne, allez.
Pas de celle.
Vous n'êtes pas de la famille de Hollande donc.
Ah bah non, mais
Nicolas, faut écouter le monde.
Non mais j'ai écouté, mais elle peut être. C'est un cousinage éloigné.
Ah non, ça fait longtemps qu'elle a été très éloignée.
Vous savez que les familles
cousins, ils suivent.
Allez, merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre. Dans un instant, le flash de 20h avec Julien Cellier. Et ensuite, donc, Sidonie Benec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. Bonsoir, les amis. Vous dormez ?
C'est de notre faute. Hein.
Non, au contraire, il y avait de l'ambiance chez vous.
Ah bon.
Mais on fait une émission sur le sommeil.
J'ai vu ça, oui.
Tu dormais combien d'heures par nuit, tiens?
Je dors 5 heures par nuit.
C'est vrai?
Bah oui, c'est vrai.
C'est pas
6h30, moi. Et Thomas?
C'est un impact sur la santé.
Bah Thomas? Oui.
Bah, la moyenne française, c'est 6h55.
Eh bah, vous voyez, je suis très en dessous, en fait, finalement.
Vous êtes bien au-dessus de la moyenne, Marco.
Oui, bien au-dessus. Allez, bon, on va pas dormir tout de suite, on va vous écouter. On retourne après le flash de 20h. À tout de suite.
Bonne nuit, les enfants.
Il retourne.